Bonjour et merci beaucoup Marie-Paul de me donner l'occasion de présenter ici. Merci à tout le monde d'être venu. Je vais présenter ma présentation s'appelle Simulation physique pour les mondes virtuels et comme l'a dit Marie-Paul, ça va parler un petit peu plus en détail de la manière de simuler physiquement les mouvements, la plausibilité mécanique d'objets virtuels et des travaux qu'on a menés dans l'équipe. Donc le plan de ma présentation va commencer par des petits rappels, et ensuite je montrerai nos travaux sur des modèles à base de grilles régulières, des modèles recalés, des modèles à base de repères, et puis je parlerai aussi de quelque chose d'assez important pour la modélisation du comportement réaliste, c'est la détection de collisions et les problèmes qu'elle pose et des manières de les aborder. Donc, la mécanique, la simulation mécanique repose, comme Marie-Paul en a rapidement parlé, sur une discrétisation des objets. Donc, pour pouvoir simuler des objets, ici, un objet. D'accord, la souris n'agit pas. Il y a un pointeur quelque part. Tu avais un pointeur, Marie-Paul. Ah, ça doit être ça. Oui, ok. Donc un objet continu à une infinité de points, on ne peut pas simuler une infinité de points, on est obligé d'utiliser un ensemble de paramètres, un ensemble réduit de paramètres. Typiquement, on prend un ensemble de points représentatifs qui sont les sommets d'un maillage, et donc l'objet est simplifié par un maillage. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, l'état de l'objet, à tout instant, c'est l'état des nœuds du maillage. Donc par exemple, la forme de l'objet est donnée par le déplacement des nœuds du maillage. Ainsi, on a discrétisé le problème, on l'a considérablement simplifié, puisque au lieu d'avoir une infinité de points, on n'en a plus qu'un nombre fini. Là-dessus, il reste à appliquer les lois de la physique. Alors, la loi de la physique qui intervient tout le temps, c'est la loi de Newton, force égale masse fois accélération, et on l'utilise, nous, en général, dans l'autre sens, c'est-à-dire, étant donné des forces qu'on a calculées dans un état actuel, étant donné les propriétés de l'objet, la masse, on peut en déduire l'accélération de l'objet qui va nous permettre de le mettre à jour. Donc, il y a différentes techniques de mise à jour de l'objet en fonction des accélérations. On peut mettre à jour les vitesses à l'instant suivant d'après les vitesses actuelles et en ajoutant l'accélération fois un petit intervalle de temps. C'est de l'intégration dite explicite. Elle peut mener à des instabilités puisqu'on considère juste l'accélération à l'état actuel. En gros, on est aveugle. On fait une sorte de saut dans le vide qui, à partir de l'état actuel du système et uniquement son état actuel, nous permet d'inférer l'état futur. Dans certains cas, c'est très instable. Donc, en général, on préfère être plus prudent et dire que ce qui va nous permettre de calculer la vitesse future, c'est l'accélération, non pas actuelle à l'instant T, mais future. Alors c'est un peu paradoxal parce qu'on ne la connaît pas encore. Oui, mais on peut l'approcher en posant un système d'équations. Donc je ne vais pas trop détailler ce système d'équations, je vais juste en rappeler un petit peu les ingrédients. On a la masse de l'objet, ses propriétés, sa masse. On a une matrice qui donne sa raideur, la manière dont l'objet va réagir aux déformations. Et puis essentiellement donc, les forces, les accélérations. Donc, la méthode reine en simulation mécanique, c'est la méthode des éléments finis, qu'on retrouve notamment dans tous les simulateurs industriels. Qu'est-ce que c'est en gros ? Eh bien, ça représente l'état d'un matériau, l'état d'un objet, comme si vous aviez peint sur cet objet. Je prends l'exemple le cas d'un objet surfacique. Si vous peignez un petit repère orthonormal, c'est-à-dire deux flèches perpendiculaires de longueur 1 chacune, vous peignez ça sur l'objet, et puis, vous le laissez se déplacer, se déformer. S'il se translate ou qu'il tourne, l'objet, les deux flèches vont rester de longueur 1 et orthogonales l'une à l'autre. On n'a pas de déformation. Par contre, s'il se déforme, vous allez soit avoir les longueurs qui changent, soit les angles qui changent, c'est le cisaillement, soit un mélange des deux. Et c'est comme ça qu'on mesure la déformation, on se base là-dessus. Après, il y a différentes mesures possibles en partant de là, mais tout part de ce petit repère. D'après ça, on peut calculer donc une énergie de déformation et en dérivant cette énergie, on peut calculer des forces qui s'appliquent au sommet de chaque nœud. Donc, l'ensemble de la matière à l'intérieur d'une cellule agit et son action se traduit par des forces qui s'appliquent sur le sommet de la cellule. Comme on a beaucoup de cellules, eh bien, on utilise la numérotation. Alors, chacun de ces sommets est numéroté dans l'objet complet. Et donc, en utilisant la numérotation globale, chaque élément va appliquer ses forces, les forces à ses sommets, va les accumuler quelque part dans un grand vecteur, dans un grand tableau de données qui représente toutes les forces sur chacun des objets. Pareil pour les matrices, donc ce qui représente la réaction de l'objet, une relation linéaire entre les forces et les déplacements appliqués. On assemble tout ça dans une grande matrice. Et on a donc un gros système d'équations et on résout le système d'équations. Alors, résoudre les systèmes d'équations, c'est là où on passe l'essentiel du temps de calcul dans un simulateur mécanique, en général. C'est compliqué. Donc, si vous avez un système de taille n, suivant les cas, vous allez mettre de l'ordre de O de n, de l'ordre de n, ou alors de jusqu'à n au cube, temps de calcul, pour résoudre le système. Ça peut être extrêmement coûteux. Des méthodes ont été proposées. Et l'idée est d'utiliser un compromis entre précision et temps de calcul, ce qui permet d'avoir relativement rapidement un résultat, même s'il n'est pas parfaitement exact, ce qui en général remplit bien notre cahier des charges d'une simulation visuellement crédible, mais pas forcément exacte. Donc en 98, un article avait fait grand bruit, là, qui pour la première fois permettait d'animer des vêtements en un temps réaliste, au prix d'un certain ramollissement des propriétés, amortissement, lissage. Mais enfin, si on veut arriver à simuler mécaniquement des phénomènes complexes, on est obligé de faire des compromis entre précision et temps de calcul. Et c'est là qu'arrive l'art un petit peu du domaine. Quel compromis on va faire? Comment on va modéliser? Où va-t-on faire les compromis? Dans le modèle, dans la résolution numérique? C'est là que c'est intéressant. Et qu'il y a des approches spécifiques à l'informatique graphique, au monde virtuel. Donc les difficultés, j'avais parlé de la résolution efficace des équations, ça c'est l'affaire plus, je dirais, des mathématiciens, des numériciens, mais aussi une grande partie de la difficulté qui nous intéresse plus ici, c'est modéliser, notamment à partir de données réelles, c'est-à-dire mettre le réel en équation. Marie-Paul en a montré des exemples très très intéressants sur les prairies, les feuilles de papier. Moi je m'intéresse un petit peu plus dans ce que je vous présente là, sur des données réelles et notamment qui viennent de données d'images médicales. Donc ici, vous avez par exemple une tranche d'image IRM qui a été produite, qui représente une personne réelle. Comment est-ce qu'on peut, à partir de ça, créer un modèle 3D de cette personne qui permet d'appliquer des calculs mécaniques? Différentes méthodes ont été proposées. Je vais passer rapidement là-dessus. Nous avons beaucoup travaillé sur une méthode qui consiste à englober les objets dans des grilles déformables. Donc c'est un maillage très spécial dans lequel les sommets sont les coins de ces petites cellules et les cellules sont régulières. Et l'avantage de ça, c'est que ça permet de régler très facilement le compromis précision temps de calcul. Plus vous avez des petites cellules, et plus vous collez précisément à la géométrie de l'objet, à sa forme, et vous pouvez représenter des matériaux différents à différents points de l'objet, et plus les cellules sont grosses, et plus vous êtes imprécis, et plus vous êtes rapide, parce que vous avez moins d'inconnus, vous avez des plus petits systèmes d'équations à résoudre. Donc, la question, c'est maintenant de savoir quelles propriétés on va attribuer à chaque cellule de l'objet. Donc si on part d'images médicales, comme je vous ai montré au départ, on a un maillage, on a des cellules extrêmement fines, et on est obligé de simplifier ça. Donc on va être obligé de créer des cellules grossières à partir de cellules fines, et donc en synthétisant, en simplifiant la répartition des propriétés hétérogènes, dans une cellule plus grossière. Donc une approche naïve ferait la moyenne, tout simplement, dans chaque grosse cellule des valeurs des petites, mais ça aboutit à des répartitions uniformes qui ne sont pas forcément réalistes. Nous avons proposé des approches qui permettent de mieux tenir compte de la répartition spatiale des propriétés. Par exemple, si vous voulez représenter cet objet-là qui est composé, qui est en partie vide à l'intérieur de la cellule, si vous utilisez une cellule uniforme, l'objet va se déformer comme un cube homogène, et ça sera beaucoup moins réaliste qu'à droite, là où vous voyez qu'une prise en compte de la répartition hétérogène donne un comportement qui est différent dans la partie droite de la partie gauche, pour une même complexité mécanique, parce que dans les deux cas, il s'agit d'une cellule déformable avec le même nombre de sommets. On s'est ensuite intéressé à la répartition non uniforme de la matière, mais à un niveau beaucoup plus fin. C'est-à-dire que ici, si vous représentez par exemple cet objet qui est une sorte de grain de raisin avec une matière molle, verte, et une matière beaucoup plus rigide, ici en bleu foncé, si vous avez beau prendre en compte la partie bleue dans les propriétés de la cellule, comme à l'intérieur de la cellule, vous interpolez de manière purement géométrique, avec des méthodes classiques, vous allez obtenir, quand la cellule s'allonge, un allongement de la partie bleue tout autant que de la partie verte, ce qui, visuellement, n'est pas réaliste. Donc, nous avons travaillé sur des méthodes qui permettent d'obtenir une partie bleue, ici un petit grain, qui conserve sa raideur, tout en laissant le vert se déformer. Je détaillerai ça un tout petit peu plus. Un autre problème qui est avec les grilles, c'est que vous pouvez vous retrouver avec des objets différents dans une même cellule. Et alors, comme les tentacules de spoulpe ici, qui se retrouvent dans la même cellule, elles ne sont donc pas séparables. Vous pouvez déformer la cellule, mais vous ne pouvez pas éloigner radicalement une tentacule d'une autre. Donc on a adressé ces problèmes pour obtenir plus de réalisme. Donc on a proposé des fonctions de forme dépendant des matériaux pour préserver le détail de la raideur sous maille. Sous maille, ça veut dire plus petit qu'un élément. On va s'intéresser à du détail qui est plus petit qu'un élément et qui est normalement pas faisable avec des méthodes habituelles. Donc ici, je représente un petit élément 1D. C'est comme un petit élastique que vous pouvez étendre ou comprimer horizontalement et qui est composé de trois matériaux. Ce qui est important dans cet exemple, c'est qu'au milieu, dans le segment BC, on a une partie très raide. Donc un vrai objet comme ça, si je tire dessus, il va s'étendre beaucoup plus dans les parties molles, que j'ai faites en gris clair, que dans la partie rigide, qui est en gris foncé, en noir. Avec une méthode d'éléments finis traditionnelle, vous étendez tout de manière homogène et vous avez un comportement qui n'est pas réaliste puisque le noir est étendu autant que le blanc. Ce n'est pas que visuel, la différence. La différence, c'est que là, si vous ne pouvez pas étendre l'objet complet sans étendre proportionnellement beaucoup le noir, vous allez obtenir une raideur trop forte. Vous allez faire une erreur importante dans les calculs parce que l'objet devient artificiellement trop raide à cause de ce noir qui ne peut pas faire autrement que se dilater beaucoup quand on étend l'objet. Donc, nous avons travaillé nous avons montré qu'on peut éliminer ce problème en répartissant le mouvement des nœuds externes vers l'intérieur de l'objet, non pas avec des fonctions habituelles basées sur la géométrie de l'objet et qui varient continuellement d'un point à un autre, d'un sommet à un autre, mais avec des fonctions plus compliquées et dont les pentes traduisent la raideur de l'objet. Donc on peut montrer que si à l'intérieur de l'objet, au lieu d'interpoler linéairement, on interpole ici de manière linéaire par morceau avec des pentes différentes, alors on obtient exactement le comportement interne souhaité tout en n'ayant que 2 degrés de liberté, les deux points externes. Donc c'est exact en 1D et ça s'étend assez bien en 2D et 3D. Je vous en montrerai des exemples un petit peu plus tard. Maintenant. Alors allons-y. Alors là, je vais revenir sur le départ, qui est donc la modélisation d'objets déformables par des grilles régulières. Donc là, avec cette condensation non uniforme que je vous ai montrée, on obtenait un mouvement plus réaliste à droite qu'à gauche. J'accélère sur cette partie qui est un peu plus technique. pour vous montrer, vous voyez, donc cet objet lisse et de géométrie relativement complexe. On l'a représenté par une grille que vous avez vue en jaune et qui, une fois masquée à l'affichage, est imperceptible. On a l'impression d'un objet complètement continu et en fait, il est représenté par une grille relativement grossière. De même pour cette gargouille qui possède des éléments géométriques qui sont des volumes, des surfaces, des lignes, une modélisation par éléments finis traditionnels comme ce qui se pratique en ingénierie mécanique aurait donné un nombre énorme d'éléments et donc n'aurait pas été traitable. Ici, vous avez un autre aspect des aspects monde virtuel, c'est la robustesse. Vous avez un utilisateur dans la boucle. Et alors, qu'est-ce qui se passe s'il impose des contraintes, des choses infaisables dans le monde réel ? Soit on le bloque, soit on s'accommode. Et là, on s'accommode. Vous voyez un mouvement qui est complètement impossible dans le monde réel et que pourtant, nous avons réalisé de manière... on appelle ça la robustesse. Donc ça, c'est des aspects aussi qui sont à traiter et qui sont spécifiques à l'informatique graphique, aux applications graphiques, et qui font partie de la qualité d'une application graphique. Donc ici, vous avez une comparaison, vous voyez, on a toujours une seule cellule ici, mais avec des comportements hétérogènes à l'intérieur. Donc ici, on a noyé dans une gelée verte un objet rouge très mou et un objet bleu beaucoup plus rigide. On est même à cheval entre les cellules, là, et vous voyez que donc, les éléments mécaniques sont les éléments en jaune. Vous voyez qu'à l'intérieur, on a des comportements qui sont assez différents. Donc ici, on s'est... Je vous expliquerai après comment on a fait. On s'est intéressé donc à l'aspect séparation d'objets dans une même grille. En fait, la grille est ramifiée. Elle est composée d'éléments qui sont initialement coïncidents, mais qui peuvent se séparer les uns des autres. Je vais accélérer un tout petit peu sur cet exemple-là de la souris. Et là, vous avez un exemple où on part de données réelles. Donc ça, c'est des données qui nous ont été fournies par nos amis de l'IRCAD à Strasbourg. Ça représente une cavité abdominale. Vous reconnaissez ici le foie, le bassin, un ensemble d'éléments. La géométrie n'est pas très belle, c'est des données réelles. Il faut faire avec. Et donc, par cette modélisation par voxel, par boîte, cellules de grille régulière, nous avons réussi à modéliser des parties de l'anatomie, notamment le foie, composées de tissus différents, mou pour le parenchyme, relativement raide pour les vaisseaux sanguins et très raide pour cette tumeur ici. Et vous voyez que la raideur, notamment des tumeurs, a été complètement restituée, alors que le parenchyme est mou. Et grâce à ces techniques d'éléments finis hétérogènes, on a été capable donc d'obtenir une application temps réel, là où des méthodes traditionnelles auraient demandé des maillages trop énormes. Voilà, donc pour les grilles, rapidement, on part d'une analyse fine où on reconnaît qu'il y a des éléments séparés, topologiquement séparés, qui se retrouvent dans la même grille, et on crée donc un graphe de connexité entre ces éléments qui nous permettent de créer une grille dont les cellules sont une grille qui est une véritable arborescence et dont les cellules peuvent être initialement confondues mais qui sont capables de se séparer les unes des autres. Alors, cette vidéo, je l'ai déjà montrée. Je vais maintenant dire un petit mot sur la modélisation. Là, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, d'accord, on a mis dans des grilles, mais encore faut-il connaître la nature des matériaux qu'on veut plonger dans cette grille, encore faut-il connaître les surfaces de contact entre les objets différents. Là, je vous ai montré un foie qui n'avait pas besoin d'autocollision, enfin de surfaces qui se collisionnent, etc. Quand on veut créer des modèles plus compliqués, il faut injecter beaucoup plus de connaissances. Et donc, c'est au niveau de modélisation physique, on s'est posé la question comment créer facilement des modèles physiques très complexes à partir d'un ensemble relativement petit de données. Et notamment, on s'est intéressé au cas où, par exemple, on a une maquette anatomique assez complète d'un personnage de référence. Ici, vous avez donc les os, le système musculo-squelettique, les viscères. Et comment est-ce qu'on pourrait équiper un certain personnage donné, ici un personnage que vous connaissez bien, comment est-ce qu'on pourrait lui... Tu l'as montré la semaine dernière ? Ah, mais je vais passer très vite alors là-dessus. Tu as montré la vidéo ? D'accord. Alors, je passe là-dessus. Je vais pas expliquer. Bon, je vais expliquer un petit peu plus rapidement alors. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, voilà une séance de rattrapage. Donc, nous avons transféré l'anatomie de ce personnage de référence dans le personnage cible en plusieurs étapes. D'abord, nous transférons le squelette en l'adaptant au mieux à la morphologie. Et une fois le squelette transféré, nous sommes capables d'interpoler de manière raisonnable le reste de l'anatomie. Il a fallu tenir compte de la répartition de gras. Donc, vous avez ici un personnage que vous reconnaissez peut-être, qu'il a fallu réduire, dont il a fallu enlever les couches de gras pour pouvoir transférer l'anatomie. Ici, on a considéré des anatomies extrêmes. Alors, comme on est une équipe de graphiques, on a pris des personnages de dessins animés pour représenter la robustesse, pour tester la robustesse de notre système à des anatomies extrêmes. Mais on peut aller même encore plus loin, puisqu'on peut aller jusqu'à des domaines non humains. Cette application ici donc, nous permet de modéliser, cette application à des images IRM nous permet de modéliser et d'obtenir des modèles mécaniques complets et détaillés à partir d'images relativement grossières. Notamment, la résolution des images est bien plus faible que la résolution de la géométrie qu'on est capable de produire. Donc tout ça nous permet ensuite de faire des simulations biomécaniques. Donc ici, on avait un modèle de biomécanique de référence qui est composé d'un squelette articulé et de lignes d'action représentant les muscles. Et on a transféré ce modèle de mécanique dans la géométrie cible d'un personnage et qui nous permet d'appliquer une simulation mécanique à ce personnage. Donc ici, ce n'est pas le mouvement de celui-là qui a été transféré à celui-là, c'est le modèle mécanique qui a été transféré. Et donc, vous avez ici la première simulation biomécanique d'Homer Simpson. Je ne sais pas si ça sera très utile scientifiquement, mais en tout cas, la preuve de concept nous permet d'avancer vers des modèles anatomiques et biomécaniques complets. Je vais accélérer un petit peu, du coup. Donc ça se généralise aussi à des anatomies non humaines et on réfléchit à des applications possibles, même y compris à des créatures n'existant pas ou n'existant plus. Quand les objets sont très complexes, les grilles ne suffisent pas. Pourquoi ? Eh bien, quand vous avez par exemple un os à l'intérieur de ce modèle de genou là, ou dans ce modèle qui est plus bidimensionnel hein, que j'ai choisi pour son aspect visuel. Donc ici, vous avez une structure biologique complexe composée d'un os, d'une partie rigide, qui est cet os en T, donc indéformable, d'une distribution complexe de chair et de gras. Utiliser des grilles, comme je vous ai montré, ne donnerait pas de bons résultats au niveau de l'os, parce qu'il y aurait des structures rigides à travers plusieurs cellules, et donc qui entraînerait des difficultés numériques importantes pour rigidifier des ensembles de cellules. On a donc utilisé pour ça, on est parti pour attaquer ce problème d'une technique graphique, une technique propre au graphique qui est une méthode de déformation à base de repères de contrôle. Donc là, on est plat provisoirement, on n'est plus du tout dans la simulation physique, on est dans l'animation d'une créature articulée. Marie-Paul vous a peut-être montré des exemples comme ça. Donc ici, ce cheval-là, qui est donc un objet créé par un artiste, va être contrôlé par un squelette interne. Pourquoi ? Bah, encore une fois, je vous ai dit l'autre fois que je vous ai dit que pour contrôler un objet complexe, on le discrétisait en un ensemble de points. Ici, le mouvement de ce cheval, on le discrétise en un ensemble d'angles articulaires. La difficulté, c'est de déformer de manière lisse cette peau de cheval sans que le cheval ressemble à un robot articulé. Parce que si on y prend garde, si on accroche par exemple les points de la peau du cheval à l'os le plus proche, comme ce qui est représenté ici par cette carte de couleur, eh bien, qu'est-ce qui va se passer quand on va quitter l'angle de référence ? On va avoir des discontinuités qui apparaissent. Vous voyez ici le bleu et le vert qui sont discontinus à l'endroit de la jonction. Et donc, pour résoudre ce problème qui s'est posé très très tôt en informatique graphique pour l'animation d'humains virtuels, la communauté, dans les années 80, Nadia Talman et ses collègues, ont inventé la méthode qu'on appelle le skinning en anglais ou l'enrobage en français, qui est de dire, plutôt que mes points sont accrochés, plutôt que mes points soient accrochés rigidement l'un à tel os, l'autre à tel os, on va faire des compromis, on va faire des mélanges. Donc ici, un point au niveau de la jointure, là, sera pas soit vert, soit bleu, mais il sera une combinaison, il sera une somme pondérée de s'il était vert ou s'il était bleu. Et il se retrouve quelque part entre les deux. Et en faisant varier ces pondérations, on attache les points entièrement au vert, et puis progressivement de plus en plus au bleu, jusqu'à entièrement au bleu. Et ça permet de créer une chambre de déformation continue du vert au bleu, et d'obtenir un enrobage beaucoup plus lisse. Pourquoi ça nous a intéressé, ça ? Eh bien, parce qu'on a ici un exemple de champ de déplacement qui est paramétré par très peu de degrés de liberté, puisqu'on a un repère ici et un repère là, et qui nous donne une déformation continue, facile à régler, et qui est adaptable pas seulement à une peau, comme on l'a vu là, mais cette technique est transposable à l'intérieur d'un volume. Autrement dit, plutôt que plonger nos volumes dans des éléments finis, dans des maillages avec plein de petites cellules, on peut tout aussi bien, si on veut, l'accrocher à des repères et représenter des déformations continues d'un repère à un autre. Alors là, ça devient drôlement intéressant, parce que si on est capable de faire ça, on est capable aussi d'appliquer de la mécanique des milieux continus, tout à fait rigoureuse, à ce genre de modèle. Qu'est-ce qui se passe ? Comment faire ? Eh bien alors, si on analyse un petit peu la mécanique des milieux continus appliquée aux éléments finis, qu'on en fait une abstraction, on peut le voir sous forme d'un système à trois niveaux, à trois couches. Tout en haut, on a les points de contrôle, les degrés de liberté indépendants, qui sont vraiment les paramètres du mouvement du système, les paramètres indépendants. Ici, c'est des points rouges, dans le cas des éléments finis. Ces points rouges imposent leur mouvement à tout le milieu bleu, ici. Et donc, en certains points bien choisis, ici représentés par des petits carrés, on va représenter ces gradients de déformation que je vous ai montrés tout à l'heure, ces petits repères déformables. Et dans ces repères déformables, à chacun de ces repères déformables, on va appliquer une certaine mesure de déformation qui correspond à un certain volume accroché à chacun de ces petits points et appliquer une loi de comportement de matériaux. Et là, on est au niveau des énergies de déformation. Et donc, ce système en trois couches, si on décompose la mécanique comme ça en trois couches, eh ben, on peut faire la même chose avec un système à base de repères. Donc maintenant, au lieu d'avoir un maillage à éléments finis, on a des repères de contrôle que j'ai représentés ici, qui sont les degrés de liberté indépendants du système. Ces repères, après eux, pilotent des petits points où on va calculer l'énergie de déformation, là, avec ces repères, donc, qui sont ici, qui eux-mêmes donc, ont une loi de comportement associée. Et tout ce qu'on a fait, c'est appliquer exactement la même méthodologie, mais au lieu d'avoir en haut des nœuds et un maillage par élément fini, on a des repères et cette fonction d'enrobage qui sert à contrôler le matériau. Et une fois qu'on a analysé le système comme ça, il n'y a plus qu'à tourner la manivelle, c'est plus que des maths, on peut dérouler les équations et aboutir à des systèmes qui sont relativement simples. Pourquoi ? Parce qu'au lieu d'avoir plein de sommets pour un maillage très détaillé, on peut avoir un nombre relativement réduit de degré de liberté grâce à ses repères de contrôle. Donc on l'a implémenté dans SOFA. SOFA est une librairie d'animation physique qui est développée par une communauté de chercheurs animée par l'INRIA et dans laquelle on a été très actif. Donc c'est une librairie qui allie une grande modularité et une certaine efficacité. C'est gratuit, c'est open source, vous pouvez aller le récupérer là si vous êtes intéressé. Et ça a donné lieu à, ça a permis à énormément d'équipes d'appliquer leurs travaux de recherche. Donc nous, on l'a implémenté dans SOFA, et donc on a proposé des modèles à base de repères qui sont extrêmement simples quand on a besoin de mouvements relativement globaux. Par exemple, cette forme ici de T, là, peut s'animer par deux repères, ici un au pied, un au sommet. Suit au pied et même fixe, là, on n'a qu'un seul repère mobile, et rien qu'avec un repère mobile, on peut représenter de manière très convaincante la torsion, la flexion, l'extension de cet objet, et avec, grâce au nombre de degrés de liberté très réduit, on peut obtenir une animation interactive très efficace. Donc, je peux vous montrer rapidement ce que ça donne. Donc, ici, on a une animation en temps réel, donc là, la flèche violette qui apparaît, et c'est la force appliquée par un utilisateur. Et donc, en temps réel, vous voyez que l'objet qui se déplace. La même chose en élément fini nécessiterait rien que pour avoir des mouvements lisses, des déformations lisses, des centaines ou des milliers d'éléments finis, et serait absolument pas temps réel. Après, on peut sculpter la déformabilité de l'objet. Dans le premier exemple, au début, là, on n'a qu'un seul repère là-haut, et la barre en haut, vous voyez, est rigide, parce que elle ne peut pas se déformer autre, elle peut pas vraiment se déformer. Parce que tous les points sont liés au premier repère, à un seul repère. Si on met deux repères, alors les points ici sont liés à deux repères et la barre du haut devient flexible. Donc, suivant la déformabilité qu'on veut appliquer à l'objet, on choisit où on veut mettre des repères de contrôle et on obtient ainsi un objet avec le nombre minimum de degrés de liberté nécessaire pour représenter les déformations souhaitées. Ici, on a l'exemple d'une tortue. Alors là, ça devient intéressant pour la partie matériaux. Donc on a un objet qui est une tortue déformable ici. Ses membres sont donc déformables, alors que sa carapace est rigide. Donc on a mis un repère à chaque extrémité et un repère dans sa carapace. Si on représente ça comme un matériau uniforme, on utilise donc des mélanges de mouvements rigides. On interagit en temps réel. Vous voyez une certaine déformation de la carapace. On n'a pas un mouvement très réaliste de cette carapace de tortue. Utiliser des éléments finis avec des grandes raideurs dans la carapace, là, serait vraiment compliqué en termes de nombre d'éléments et aussi pour la raideur qu'on serait obligé d'appliquer. Ici, on a appliqué une petite variante. On a toujours nos mêmes repères, là, mais là, cette couleur montre que tous les points de cette carapace, là, de la carapace, uniformément, sont reliés à ce repère-là, à un seul repère. Donc, n'étant influencés que par un seul repère, ils n'ont pas d'autre choix que de bouger rigidement. Par contre, vous voyez le rouge qui décline, là, qui dit que donc, l'influence de ce repère décroît. Donc, ces points dans les membres sont influencés par plusieurs repères et sont déformables. Et à ce moment-là, on obtient automatiquement une carapace qui est rigide. Vous allez voir quand on appuie dessus. La carapace bouge de manière rigide, alors que le reste de la tortue se déforme. D'accord ? Et donc, ce qui est intéressant, c'est que non seulement avec ces repères, on peut sculpter la déformabilité de l'objet, mais en jouant sur les influences de ce repère, on peut pré-calculer en quelque sorte le comportement de matériaux plus ou moins raides ou souples dans l'objet. Et ça, c'est quelque chose qu'on va utiliser par la suite. Excusez-moi. Je vais y arriver. Donc la tortue, comme je vous ai montré, a une carapace rigide parce que tous les points de sa carapace sont reliés à un et un seul repère, donc ils ne peuvent pas faire autrement que bouger rigidement. Donc pour le steak, pourquoi pas faire la même chose? Si on lie tous les points de l'os en T ici à un seul et même repère, eh ben, ils vont bouger rigidement. Et si par contre les points dans la chair ici sont influencés par l'os, mais aussi par un repère mobile ici, ils vont se retrouver déformables. Et c'est cette méthode, c'est cette idée qu'on a appliquée. Je suis en train de prendre du retard, donc je ne vais pas vous expliquer en détail comment on a obtenu le calcul automatique des influences de chacun de ces repères, mais vous avez ici la carte d'influence. Donc ici, l'influence maximum du repère central et puis qui décroît jusqu'au voisin. Tout ça est calculé automatiquement d'après les matériaux. Ici, vous avez la carte d'influence du repère de gauche qui décroît jusqu'au voisinage de l'os et qui est nulle partout ailleurs, et celle du voisin de droite. Je peux vous montrer rapidement, si je retrouve mon appli, ce que ça donne. Allô ? Où est-elle ? Ah, ça, elle a dû partir dans un autre coin de l'écran. Je vais... Comment est-ce que je peux la retrouver ? Ah, là, voilà. Donc ici, vous avez un simulateur temps réel, hein, c'est Sofa qui tourne. Donc quand j'anime, vous voyez que je peux interagir en temps réel avec cet objet. Donc ici, l'os est fixe, il ne peut pas bouger, hein, sinon à force que je tire, l'objet partirait. Une chose qui est intéressante, c'est que quand je tire sur la chair, là, quand je tire là, vous avez le gras qui se déforme plus que la chair. Alors que pourtant, la discrétisation cinématique de l'objet est extrêmement grossière, puisqu'on a juste trois repères. D'accord. Voilà donc une manière de réaliser des simulations temps réel d'objets complexes. Il faut bien choisir les degrés de liberté. Et ça veut dire bien paramétrer le mouvement avec les primitives de contrôle appropriées et les fonctions de forme, c'est-à-dire les fonctions d'influence appropriées. Je vais parler maintenant de simulation de contact. Donc le contact, c'est la simulation de contact, c'est ce qui empêche à des objets virtuels de se traverser les uns les autres comme des fantômes. D'accord ? Ce que j'ai montré là, le steak, là, si je balance un autre steak dessus, ben, ils vont se passer l'un à travers de l'autre sans même se remarquer. Donc si on veut que les objets puissent se collisionner virtuellement, eh bien, il y a tout un ensemble de calculs à faire pour détecter qu'ils sont rentrés en proximité et mettre en place des forces de répulsion pour éviter qu'ils se traversent. Et ça, c'est un gros boulot aussi en animation physique, en simulation physique. C'est le cas où le temps de calcul n'est pas entièrement passé à résoudre des systèmes d'équations linéaires. C'est le cas où il est passé à calculer à détecter des collisions et à mettre en place les réponses. Donc ça a été énormément étudié depuis longtemps, parce que les contacts sont fondamentaux pour le réalisme de beaucoup d'applications. Donc pour représenter des tissus, on a des méthodes qui nécessitent de représenter on a des méthodes spécifiques. Pour des volumes, ici des volumes rigides, là c'est déjà un petit peu plus... On peut appliquer d'autres méthodes. Dans un volume, il y a une notion d'intérieur, d'extérieur, et donc les gens ont précalculé des fonctions de distance qui permettaient d'accélérer beaucoup les calculs. Et nous, on s'intéresse ici, ce que je vais vous montrer, c'est le cas des volumes déformables, qui est relativement complexe, puisqu'on ne peut pas faire de précalcul comme dans des objets rigides, il faut se ramener à des méthodes purement déformables qui sont très coûteuses. Petit rappel, comment ça se fait la détection de collision ? Eh bien, le but, c'est de maintenir une certaine distance entre des points. D'accord ? Donc, si j'ai deux points, P1 et P2, là, et que je veux maintenir une certaine distance entre eux, eh bien, il faut que je calcule cette distance. À chacun de ces points, je peux associer une certaine matière, donc une forme géométrique, une sphère, avec différents rayons possibles. Et puis, assurer la collision, ici assurer la réponse au contact, c'est assurer que ces deux points ne seront jamais plus proches que rayon 1 plus rayon 2. Alors, le problème, c'est que si je veux représenter des surfaces complexes par des sphères, je vais être obligé d'en mettre plein. Et de toute façon, je ne vais pas avoir un bon contact parce que quand ces surfaces vont frotter les unes sur les autres, ça va faire boum, 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 comme ça. Ça n'a pas bien fonctionné. Donc, il faut passer à des primitives géométriques plus complexes, donc des maillages, hein, typiquement, des maillages polygonaux. Donc là, on étudie la distance entre des points et des éléments de surface, des quads ou plus généralement des triangles, ou alors des distances entre des paires d'arêtes. Et à ce moment-là, un objet peut être représenté par un ensemble de points et d'arêtes et de faces. On peut aussi travailler avec des formes des formes analytiques comme les cubes, les capsules, les choses comme ça. Dans tous les cas, c'est compliqué parce que c'est essentiellement ce qu'on appelle la complexité quadratique. C'est-à-dire que chaque primitive géométrique, ici un point, doit être comparée, on doit calculer sa distance à chaque autre primitive géométrique. D'accord ? Et donc, si on cherche toutes les paires de primitives géométriques, s'il y a n paires géométriques de s'il y a n primitives, il y a de l'ordre de n au carré paires de primitives. Et ça vous met n'importe quel ordinateur à genoux très rapidement, la complexité quadratique. Ça veut dire que si vous multipliez par 10 la quantité de géométrie, vous multipliez par 100 le nombre de calculs, etc. Donc, des méthodes ont été proposées pour sortir de ça, notamment par découpage de l'espace dans lequel se meuvent les objets. Donc, quand on a plein de petites particules, par exemple, on peut, répertorier dans chaque cellule de l'espace quelles sont les particules présentes. Et pour calculer donc, les collisions, plutôt que tester chaque particule avec toutes les autres, on va tester avec juste les particules qui sont dans la même cellule ou dans les cellules voisines. D'autres manières de faire sont des hiérarchies d'objets. Ah, on ne voit pas grand-chose avec les couleurs que j'ai utilisées. Un objet, ici, cette espèce de tore, est décomposé en sous-objets qui sont rassemblés hiérarchiquement. Donc, les verts clairs sont rassemblés hiérarchiquement en verts foncés, ici. Ensuite, pour calculer la détection de collision, il n'y a plus qu'à calculer d'abord si les verts foncés s'intersectent. Si oui, on va aller plus dans le détail. Là, on va repérer que seulement certaines paires de verts clairs s'intersectent, et donc c'est seulement dans celle-là qu'on va descendre plus dans le détail. Donc on organise hiérarchiquement les objets pour ne pas aller calculer le détail de tout ce qui est là-dedans contre le détail de tout ce qui est là-dedans, puisque leur volume englobant ne s'intersecte pas. Bon, tout ça est intéressant, mais nous on s'est intéressé à reconsidérer un petit peu le problème, qui est de représenter le contact par des contraintes sur la distance. Le problème, c'est que la distance est d'une part complexe, je vous ai montré que c'était quadratique, même s'il y a des méthodes d'accélération possibles. Ça génère, je vais vous montrer rapidement que ça génère trop de contraintes, ça peut générer des instabilités, des incohérences, et que ça dépend en plus trop de la... Oups, j'ai laissé ce transparent en anglais. Ça dépend trop de la résolution géométrique. Donc, dans la géométrie du contact, quand vous regardez les bouquins, les contacts, c'est comme ça, c'est super. On a deux surfaces lisses, un point de contact, une normale, un plan tangent. C'est formidable. Et on déroule les maths. Et puis, quand vous faites de la simulation, le contact, c'est ça. Les objets sont déjà interpénétrés. Il y a plein de... C'est quoi le contact, là ? C'est quoi le point de contact ? C'est quoi la normale ? Il n'y en a pas, ou alors il y en a plein, il y en a trop. Donc, c'est de complexité quadratique, comme je l'avais dit. Vous générez beaucoup trop d'équations, d'accord ? Parce que si je veux pour chaque point de l'un qui est compris dans l'autre objet, générer une contrainte pour le faire ressortir, je vais avoir énormément de contraintes à prendre en jeu. Et quelquefois, je ne sais même pas par où ressortir. Quand je suis ici, quel est le point le plus proche ? Quel est le point de sortie le plus proche ? Est-ce que c'est celui-là ? Est-ce que c'est celui-là ? Et le fait d'osciller d'une direction de force à une autre peut créer des instabilités. Quelquefois, le point le plus proche n'est même pas le bon point de sortie. Ici, vous voyez, on est rentré tellement profondément que le point le plus proche pour celui-là est par là, et donc ça nous attire encore plus en collision plutôt que nous faire ressortir. Dernière chose, quand on veut appliquer une répulsion proportionnelle à la profondeur, plus on a de points de contact, plus on a de force, et donc les forces dépendent de la résolution de la géométrie. Quand on veut travailler sur des données réelles comme celle-là, c'est complètement irréaliste en pratique de travailler avec des méthodes comme ça. Donc on est obligé de sursimplifier la géométrie ou de renoncer au temps réel. Alors comment est-ce qu'on peut faire ? Ben nous, on est parti du constat que, déjà, comment est-ce qu'on pourrait rendre les forces indépendantes de la résolution ? Déjà, prenons le problème par ce bout-là, parce que c'est intéressant. Donc, comment est-ce que je pourrais avoir la même force totale avec quelques points de contact ou avec une surface beaucoup plus détaillée ? Eh ben, c'est assez simple. Il suffit de pondérer la force par une petite R associée à chaque point de contact. D'accord ? Ce point, il est enfoncé là, mais il ne représente pas que lui-même, il représente toute une certaine R autour de lui. Et donc, on va multiplier la force par cette R. De sorte que quand il y a plus de points, il y a plus de force, mais chacune a moins d'air, moins de surface associée, et donc on va avoir la même valeur. Mais alors, si on commence à multiplier une profondeur par une R, et bien, qu'est-ce qu'on a ? Et bien, on a un volume. Donc on est en train, en fait, de contraindre non pas la profondeur d'intersection, mais le volume. Ah oui, mais là, ça devient intéressant, parce que le volume, c'est beaucoup plus facile à traiter que, potentiellement, que les contraintes, parce que ici, sur ce cas-là, au lieu d'avoir un très grand nombre de contraintes à appliquer, vous n'en avez plus qu'une. Vous dites, moi, je veux que le volume d'intersection soit zéro. Donc, au lieu d'avoir un nombre arbitraire d'équations, vous n'en avez plus qu'une ici. Donc, c'est valable dans la mesure où on est capable de poser rapidement l'équation. Alors, je passe un petit peu rapidement là-dessus, mais avec les méthodes d'informatique graphique, on est capable, avec le matériel graphique, on est capable de représenter les objets sous forme de pixels, hein, de les discrétiser sous forme de pixels, et si on stocke tous ces pixels dans différents plans de profondeur, au lieu de garder que le premier plan, comme ce qui est fait d'habitude pour afficher, si on garde tous les plans, alors et la distance à la caméra, alors l'intersection, la détection de collision peut, pour chaque pixel de l'image, se réduire à un calcul d'intersection d'intervalle. Donc vous voyez ici, si je suis un rayon là, qui va traverser ces objets, là on est dans de la collision 2D, mon rayon va rentrer dans le bleu, puis rentrer dans le rouge, puis ressortir du bleu, puis ressortir du rouge. Donc il y a un moment où il est à la fois dans le bleu ou dans le rouge. Et ça, je le détecte dans les images à plan de profondeur. Et la bonne nouvelle, c'est que donc la carte graphique de l'ordinateur peut nous permettre de calculer des volumes d'intersection. D'après ces volumes d'intersection, on peut appliquer des forces de répulsion qui sont appliquées sur des pixels, en fait, et ces forces appliquées à des pixels, on peut les remonter au sommet de la géométrie et obtenir des forces géométriques. Je suis obligé d'accélérer parce que sinon, je vais vous tenir trop longtemps. C'est très général parce que je vous parlais de modèle à couches tout à l'heure. On peut également représenter la mécanique ici par des couches. On a les degrés de liberté indépendants tout en haut, les sommets des surfaces de collision ici et le volume de collision et tous ces pixels là. Et on remonte les forces aux surfaces de collision ici qui répercutent les forces au-dessus, quel que soit ce modèle-là. Donc ça ne marche pas que pour les éléments finis, les trucs à ressort, les trucs rigides ou quoi. Ça marche pour tout, parce qu'en fait, c'est une modélisation géométrique du contact qui est complètement indépendante du modèle mécanique au-dessus. Les forces générées dépendent assez peu de la résolution des images qu'on obtient. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça dépend très peu de la résolution des surfaces. Si j'ai des surfaces plus lisses, là, j'aurai à peu près la même force. Donc avec ça, on peut obtenir des animations d'objets hautement déformables. Ça, c'était quasiment temps réel en 2008. La carte graphique, à tout instant, nous fait les calculs d'intersection d'intervalle de profondeur dans chaque direction, pour chaque rayon envoyé dans chaque direction, et nous renvoie les informations qui nous permettent d'appliquer une force de répulsion. Donc des poulpes, bon, parce qu'on est on soumettait dans une conférence de graphique, mais quand vous savez faire des poulpes, vous savez faire des intestins. Je vais arrêter pour celle-là. accélérer un petit peu. Les travaux suivants nous ont fait découper l'espace en petits cubes, parce que quelquefois, c'est quand même pas assez d'avoir un seul contact, de représenter un seul contact entre deux objets. Donc, on a coupé l'espace en cubes, et en fait, on s'intéresse à modéliser dans chaque cube le volume d'intersection local au cube. Ce qui nous permet de poser une contrainte de contact par cube. Et donc, de régler à quelle résolution on veut traiter le contact. Pourquoi est-ce que c'est utile ? Par exemple, ici, dans le cas d'un serpent déformable que je tire, là, si je le tire latéralement, il va glisser ici. Par contre, si je tire pas trop fort, il va glisser un petit peu ici, mais pas là. Donc, il me faut un comportement qui est différent en différents endroits de la zone de contact. Et pour ça, il faut modéliser plusieurs contacts pour que certains puissent être glissants et d'autres adhérents. J'accélère un petit peu les explications puisqu'on est... Sinon, je risque de déborder. Donc, je vous montre une dernière vidéo sur la modélisation des contacts. Donc, vous allez voir ici un tas de petits pixels de différentes couleurs qui représentent les intervalles, les bornes des intervalles de profondeur dans les différentes directions. Donc, voilà ce qui a été calculé par la carte graphique. Donc, chaque surface est discrétisée par des pixels. Et là, vous voyez les frontières des volumes d'intersection. Ici, vous voyez les directions de répulsion qui peuvent être calculées très facilement à partir de ça. Ici, vous avez donc les petits cubes dans lesquels ils s'expriment. Et là, les contraintes de répulsion qui ont été posées entre les différents objets. Donc, dans le cas du serpent, par exemple, si on tire dans l'axe, ça ne fait pas grande différence. Si on tire latéralement et qu'il y a très peu de contact, bon, vous voyez que le comportement est légèrement différent. S'il y a très peu de frottement, de toute façon, ça fait la même chose, le serpent vient. Maintenant, s'il y a beaucoup de frottement, vous avez ici donc un comportement relativement réaliste, alors qu'ici, le serpent bascule autour d'un contact unique et donc un mouvement de balancier qui n'est pas satisfaisant. Donc ça, c'est des simulations temps réel d'objets en contact. Donc là, on s'était comparé à la simulation, à la méthode de référence pour l'époque, qui était donc des champs de distance précalculés dans des rigides. Alors c'est très bien, on allait à peu près aussi vite. La différence, c'est que la méthode qu'on utilisait fonctionnait aussi pour du déformable, auquel on va arriver bientôt. Voilà, donc là, les objets déformables. Alors, ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est qu'elle ne nécessite pas de précalcul. On n'a pas, comme dans des champs de déformation, on peut travailler sur des objets qui se découpent en morceaux. Donc là, c'était sans la méthode, avec un contact unique, on avait certains artefacts. Notamment une sorte d'action à distance entre les contacts distincts, que là on n'a plus. Le contact est important dans les simulations réalistes, dans tout ce qui est préhension. Si vous n'avez pas de frottement, notamment, il est extrêmement difficile de saisir le moindre objet. Donc la simulation du frottement est vraiment très importante. D'où l'intérêt d'une méthode qui représente bien le frottement. On retrouve nos amis les poulpes, là. Donc, dans ce genre d'animation, ça ne fait pas une grosse différence, mono et multi-contact. Donc, on a ici des géométries beaucoup plus difficiles, puisqu'on a des zones fines, on a des parties anguleuses. Donc, ça représente un test de robustesse intéressant. Et enfin, on va arriver à ma préférée. On a ici donc une simulation chirurgicale, enfin pseudo-chirurgicale, à base de données réelles. C'est pour ça que vous voyez que les côtes sont fusionnées, là en partie, les données étaient extrêmement bruitées. On a créé donc une simulation à partir de ces données, dans laquelle tous ces objets mous, là, le raid est complète, les côtes sont complètement immobiles. Le déformable, là, est dans des grilles, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et là, la pince va venir tirer sur un morceau du foie et le contact va s'établir véritablement par pression et par frottement, si bien qu'au bout d'un moment, à force de tirer, ben, ça va lâcher puisque le frottement sera plus suffisant. Donc c'est un vrai contact et non pas des ressorts qui ont été mis au coup par coup en trichant, entre guillemets. Donc là, on a véritablement le phénomène de contact entre la pince et l'objet qui a été modélisé, et tout ça en temps réel. Dans ces cas-là, dans tout ce qui dépend des images, il est important de considérer l'adaptativité. Si vous avez des détails sous pixels, ils risquent de passer inaperçus et donc de ne pas modifier la trajectoire comme il le devrait. Donc pour ça, je ne vais pas avoir le temps d'en dire beaucoup plus, mais on a travaillé sur des méthodes adaptatives par lancer de rayons pour détecter automatiquement les endroits où il faut plus détailler et appliquer ça. Voilà. Donc c'était un panorama vraiment très très rapide de nos recherches et des problèmes auxquels on s'attaque. On valorise donc une grande partie de ces travaux dans une start-up là, qui démarre et qui s'appelle Anatoscope. Au niveau des problématiques qui restent, à mon avis, actives et très importantes à creuser, il y a la création de modèles réduits, c'est-à-dire l'important, c'est de trouver les bons degrés de liberté pour représenter un modèle physique. D'accord ? Il ne s'agit pas de dire j'ai des éléments finis et je coupe tout en petits morceaux et tout ira bien, parce que ce n'est pas réaliste dans des environnements interactifs. Donc le choix des degrés de liberté, des modes de déformabilité est crucial, et c'est tout le mouvement actuel dit des modèles réduits qui cherchent à calculer automatiquement, d'après des représentations très fines des objets, calculer automatiquement les représentations grossières les mieux adaptées. L'adaptativité, il faut être capable de changer de représentation en fonction des besoins. C'est-à-dire que cet objet, si j'ai besoin de l'animer grossièrement, eh bien, les angles articulaires suffiront avec un petit peu d'enrobage. Si maintenant je veux aller lui appuyer sur le ventre, eh bien, il faut que son ventre soit localement déformable. Mais ces degrés de liberté de déformation, ça ne sert à rien qu'ils soient toujours là. Donc idéalement, il faudrait qu'ils apparaissent seulement au moment où on en a besoin et qu'ils disparaissent après. Marie-Paul en a montré un petit peu des exemples dans sa feuille. Il faut arriver à généraliser ça à tous les modèles de déformation. Et puis, il y a beaucoup de cas où c'est très difficile de modéliser par des paramètres physiques. Par contre, on sait comment l'objet se comporte. On en a par exemple des vidéos, on en a des mesures. Et donc, dans ces cas-là, plutôt qu'aller imaginer les paramètres physiques à mettre dans l'objet pour qu'il reproduise le phénomène, il faudrait qu'on puisse créer directement l'objet d'après les résultats. Et ça, c'est une piste de recherche extrêmement prometteuse, me semble-t-il. Voilà, merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je suis très heureux.